Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens, mars 2018. Hélène Denis avec vous, heureuse de vous retrouver. J'en profite pour dire un grand merci à François Brodeur qui a pris l'antenne ces derniers jours à l'émission Le quotidien des quotidiens ainsi qu'à l'émission Les par actualité. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène. Il me
semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble.
Mais oui, mais oui.
Vous allez bien, vous?
Mais oui, je vais fort bien, vous?
Oui, ça va un petit peu déphasé parce qu'on est quoi, mercredi? Hein?
Déjà mercredi,
oui,
déjà milieu de la semaine.
Oui, alors une petite semaine pour moi, ça va passer vite et je suis très heureuse d'être de retour à Canal M. Alors je vous écoute, ça n'a pas changé, la chronique éphéméride a toujours lieu à cette heure-ci?
Absolument, absolument, vous n'êtes pas trop mêlés. Alors 7 mars tout d'abord, en l'an 321, l'empereur romain Constantin Ier fait par décret du jour du soleil, c'est-à-dire le dimanche, le jour de repos hebdomadaire, une habitude qui aura la quenzure, comme on dit, donc qui perdurera pendant des siècles et des siècles. 7 mars 1573, la paix de Constantinople met fin à la guerre entre la Turquie et Venise. 1657, la vente d'alcool aux Indiens est interdite au Canada par le roi Louis XIV. 1792, Antoine Louis, un célèbre chirurgien à l'époque, préconise dans un rapport remis à l'Assemblée législative la mise au point d'une machine à lame oblique, seul moyen de donner la mort à tous les condamnés avec rapidité et sûreté. Il s'agit donc de la guillotine, qui sera utilisée pour la première fois le 25 avril 1792.
Ah, la date de ma fête! C'est pas très réjouissant comme date en ce qui concerne la guillotine.
En effet. Sinon, 7 mars 1800, fondation de Hull, qui depuis fut renommée Gatineau. 1906, en Finlande, le droit de vote est accordé aux hommes et aux femmes âgés de plus de 24 ans. 1926, première conversation téléphonique entre New York et Londres. 1957, toujours un 7 mars, le Sénat américain adopte la doctrine Eisenhower tendant à la protection de l'indépendance des pays du Proche-Orient. 1963, note un petit peu plus triste, début d'une campagne du FLQ, des cocktails Molotov sont lancés sur des cibles militaires en région montréalaise. 1985, encore un 7 mars, sortie de la chanson We Are the World, We Are the World,
oui.
Au profit de USA for Africa, écrite par Michael Jackson et Lionel Richie. Et interprété par un nombre innombrable de vedettes de l'époque, chanson qui réunira 50 millions de dollars contre la famine en Éthiopie. 1987, encore un 7 mars, le Québécois Pierre Harvey, père bien sûr de Alex Harvey, gagne le 30 km en ski de fond aux championnats mondiaux de Suède. 1994, la Cour suprême des États-Unis valide l'usage raisonnable, aussi connu sous le fair use, à des fins de satire. Donc, ceux qui veulent faire des parodies, des satires, n'ont plus besoin d'obtenir les droits préalablement de l'artiste original pour pouvoir réinventer l'œuvre, donc pour des fins de satire. 2011, 7 mars, une tempête laisse 70 cm de neige à Sherbrooke et on espère que nous allons éviter une pareille tempête dans les prochains jours, dans les prochaines heures.
J'ai entendu 5 à 10 pour Montréal, mais on ne sait jamais.
On ne sait jamais, en effet. Et puis en 2014, un 7 mars, le président russe Vladimir Poutine donne le coup d'envoi aux Jeux paralympiques de Sochi. Et on se rappelle, ça avait comme toile de fond l'intervention militaire en Crimée. Et par rapport aux Paralympiques, ils commencent cette semaine, le 9 mars. Vendredi, on vous invite à être à l'écoute pendant toute la période des Paralympiques. Notre camarade Kevin Breton nous fera parvenir des capsules avec soit les épreuves observées pour la journée ou les résultats de la veille qui seront diffusés tout au cours de la journée.
En plus d'en parler dans son émission au Signal le vendredi.
Absolument.
Ouais.
7 mars, anniversaire de naissance de Nicéphore Niépce, cet inventeur français qui a inventé, je vous le donne en mille, la photographie. Il est né le 7 mars 1765. Je n'ai malheureusement pas la date de l'invention exacte de la photographie pour vous ce matin. Également, anniversaire de naissance du compositeur Maurice Ravel, né en 1875. Et finalement, mais non le moindre, 7 mars 1999, décès du cinéaste Stanley Kubrick.
Merci Jean-Sébastien.
Avec grand plaisir, comme toujours.
À la une de la presse, étude sur la rémunération des médecins au Québec, plus riche, moins productif, la production des soins médicaux a stagné ou diminué dans la province entre 2006 et 2015. Nos résultats sont troublants pour plusieurs raisons, souligne l'un des chercheurs principaux de l'étude. Explication. Boissons sucrées, alcoolisées, un signal d'alarme prémonitoire. La chronique de Nathalie Petrovski, Grand Ballet, chercher la femme et entre parenthèses, et ne pas la trouver. Une exclusivité à la presse, un détenu s'est suicidé alors que le gardien dormait. Une coroner met en relief les dangers potentiels des heures supplémentaires en milieu carcéral. Les milliards dépensés pour augmenter la rémunération des médecins au Québec depuis 10 ans ont été accompagnés d'une baisse de la production de soins, révèle une importante étude indépendante réalisée à la demande du commissaire à la santé et au bien-être, CSBE, dont les résultats finaux sont rendus publics ce matin. Alors que le modèle de rémunération à l'acte des médecins au Québec est censé inciter à une plus grande productivité, la production des soins médicaux a stagné ou diminué dans la province entre 2006 et 2015, ont découvert des chercheurs spécialisés dans le domaine de la santé dans leur étude intitulée « Analyse des impacts de la rémunération des médecins sur leur pratique et la performance du système de santé au Québec ». Rappelons que le poste de commissaire à la santé et au bien-être, qui agissait en chien de garde de la qualité des soins, a été aboli par le gouvernement Couillard. « Nos résultats sont troublants pour plusieurs raisons », souligne d'entrée de jeu l'un des chercheurs principaux de l'étude, Damien Contandriopoulos, joint au téléphone par la presse en Colombie-Britannique, où il enseigne désormais au sein de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Victoria. Il enseignait à l'Université de Montréal jusqu'à tout récemment. Peu importe l'angle avec lequel on regarde les chiffres, la productivité a plafonné, voire diminué alors que les revenus ont augmenté. Donc, l'augmentation des revenus des médecins ne garantit en rien l'amélioration de l'accès ou la productivité dans le réseau de la santé, dit le Dr Hugo Vien, président de l'Association médicale du Québec. Alors, il y a un tableau. En bref, moins de jours travaillés selon les données fournies par la RAMQ, le nombre moyen de jours travaillés chez les médecins omnipraticiens passé de 203 jours par an en 2006 à 194 jours par an en 2015, soit une baisse de 4,5. Chez les médecins spécialistes, la tendance est similaire, une moyenne de 210 jours par an en 2006 comparativement à 203 par an en 2015. Combien gagne-t-il en dollars constants de 2015? La rémunération brute moyenne des omnipraticiens est passée de 223 752 $ en 2006 à 281 053 $ en 2015, tandis que celle des médecins spécialistes est passée de 335 003 en 2006 à 472 991 en 2015. L'écart entre les deux groupes s'est creusé davantage entre 2012 et 2015, car durant cette période, les spécialistes ont vu l'augmentation de leurs revenus s'accélérer, alors qu'en dollars constants, elle a stagné pour les médecins omnipraticiens, rappellent les chercheurs. Un signal d'alarme prémonitoire. Quelques heures avant la découverte du corps d'Athéna Gervais, le Conseil d'éthique de l'industrie québécoise des boissons alcooliques s'inquiétait des dangers des boissons comme le Fucked Up et le Four Loko, à plus forte raison pour les plus jeunes consommateurs. La dernière année a été celle de tous les excès, écrit le Conseil d'éthique de l'industrie québécoise des boissons alcooliques, à tel point qu'il la qualifie d'année Four Loko et Fucked Up. Rarement boisson aura-t-elle fait couler autant d'encre. Alors, allons-y avec le père de la victime. C'est le temps de dire que c'est assez. Depuis la mort de sa fille, Alain Gervais milite pour que Québec et Ottawa exercent un meilleur contrôle de l'accès aux boissons du genre Fucked Up et Four Loko. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Alain Gervais, le père d'Athéna, refuse que la mort de sa fille de 14 ans soit vaine. Il se lance dans une bataille pour faire resserrer les lois qui encadrent la mise en marché des boissons fortement alcoolisées et sucrées, comme celle que l'adolescente aurait consommée le jour de sa mort. « Ce sera la loi Athéna », lance M. Gervais. La mort d'Athéna, Gervais continue de secouer le Québec. La jeune fille aurait bu avec des camarades une quantité encore inconnue de la boisson Fucked Up le 26 février dernier sur l'heure du midi. En état d'ébriété, elle n'est pas retournée en classe. Son corps gisant dans un ruisseau derrière son école secondaire à Laval a été découvert 3 jours plus tard. Depuis la mort de sa fille, Alain Gervais milite pour que Québec et Ottawa exercent un meilleur contrôle de l'accès aux boissons. Une pétition mise en ligne par un proche de la famille d'Athéna Gervais réclame notamment que les boissons à base de malt dont la teneur en alcool est supérieure à 6,5 soit en vente dans les succursales de la Société des alcools du Québec et non dans les dépanneurs et les épiceries. On ne parle pas d'éliminer ces boissons-là, mais de mieux les contrôler, nuance-t-il. L'hiver n'a pas dit son dernier mot. Un bon nombre de centimètres de neige doivent tomber sur le Québec aujourd'hui alors qu'une importante dépression doit frapper la région de Montréal. Cela devrait entraîner des accumulations de plus de 15 centimètres de neige. Le tout pourrait être accompagné de poudreries par endroits, prévient Environnement Canada. Québec a annoncé la création de 2000 places en service de garde et a finalement débloqué des fonds pour l'ajout de 3800 places de plus dont le développement avait été freiné pour des raisons financières. Le ministre de la Famille, Luc Fortin, a admis en faisant l'annonce hier à Montréal que les fonds étaient déjà disponibles dans le budget de son ministère et qu'aucune nouvelle enveloppe n'était requise pour y arriver. Après des années de soutien au développement de places en garderie privée non subventionnées, le gouvernement fait volte-face dans son approche et attribue 85 % des 2000 nouvelles places à des centres de la petite enfance, CPE, le reste allant à des garderies privées subventionnées. Quant aux 3800 places qui pourront être créées, elles sont toutes destinées aux CPE qui avaient présenté des projets il y a quelques années et dont le développement était prévu pour 2015. Millions, c'est le nombre de mariages forcés impliquant des mineurs qui ont lieu chaque année dans le monde, selon un nouveau rapport de l'UNICEF. L'organisation onusienne note cependant que le phénomène est en net déclin un peu partout dans le monde et spécialement en Inde où il a été divisé par deux.
Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Triplement idiot, gondolé comme une triplette de Belleville.
extrait des triplettes de Belleville. C'était Ben Charret, Belleville, Rendez-vous, une pièce de 2003.
À la une du Devoir, une photo sous laquelle on lit le ton de Kim Jong-un s'est soudainement adouci et la Corée du Nord accepterait maintenant de discuter de dénucléarisation. Moment de détente entre les deux Corées, les États-Unis accueillent favorablement l'ouverture d'un dialogue. Il y a de la détente post-olympique dans l'air. Mieux traiter les médecins ne profite pas aux patients. Violence faite aux femmes, des maisons d'hébergement crient à l'aide. Les ressources en région répondent à une clientèle toujours plus nombreuse. Les excuses des grands ballets canadiens, le directeur artistique dit avoir entendu les critiques et choisit en conséquence de changer le titre du spectacle « Femmes » au pluriel pour « Parlami d'amore ». Itinérance, l'inégalité entre hommes et femmes se vit jusque dans les refuges. Enseignement supérieur, hausse des étudiants souffrant d'une déficience. En doublant l'enveloppe de rémunération des médecins en 10 ans, le Québec n'a récolté qu'une stagnation, voire une diminution des soins, conclut une étude très attendue sur le sujet rendue publique aujourd'hui. Son auteur principal, le chercheur Damien Contandriopoulos, en conclut qu'il faut retirer la gestion des enveloppes de rémunération aux fédérations médicales. Il en fait sa principale recommandation. Après 3 ans à creuser le sujet, son jugement est sans équivoque. Nos données montrent qu'en 10 ans, nous avons doublé les investissements pour payer les médecins. C'est massif. Et la société en a retiré exactement rien, a-t-il déclaré au Devoir en entrevue la semaine dernière. L'étude était soumise à un embargo jusqu'à aujourd'hui. Entre 2006 et 2015, l'enveloppe destinée aux médecins a doublé, passant en dollars courants de 3,3 à 6,6 milliards de dollars, une augmentation moyenne de 8,1% par an. Les autres dépenses en santé, elles, ont cru de 4,3% en moyenne pendant la même période. Les augmentations ont surtout profité aux médecins spécialistes. Ils ont touché une augmentation de 116% en 10 ans, contre 78% pour les omnipraticiens. Cette étude est co-signée par plusieurs chercheurs et collaborateurs, dont Astrid Broussel, Mylène Breton, Arnaud Duhou, Catherine Hudon et Alain Vadeboncœur. Elle a été subventionnée à hauteur de 250 000 $ sur 3 ans, par le commissaire à la santé et au bien-être aujourd'hui aboli. Ce dernier avait confié l'administration des fonds et son processus d'octroi et de gestion au Fonds de recherche du Québec pour éviter toute ingérence, car le sujet est épineux. Des maisons d'hébergement crient à l'aide. Elles sont sous-financées, craignent l'épuisement de leur personnel et sont carrément en train de déborder. Les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales situées en région demandent au gouvernement Couillard de leur donner les ressources nécessaires à leur réalité. Elles, celles de devoir couvrir un vaste territoire moins peuplé et éloigné là où elles doivent pallier l'absence de services. Le taux d'occupation était de 149 % en janvier dernier à la maison L'Aide, elle, de Gaspé. Ce centre, qui vient plutôt en aide aux femmes victimes de violences, est en voie de boucler son année financière la plus occupée, avec un taux moyen de 115 %. Alors, que feriez-vous avec un financement additionnel, quelques personnes de quelques maisons donc, qui accueillent les victimes de violences répondent? On mettrait plus d'argent pour les services aux enfants. On demande à l'intervenant du DPJ dans le dossier de continuer à faire le suivi, mais ce n'est pas toujours le cas. Les enfants sont souvent oubliés, ils sont victimes là-dedans, dit Mélisande Dorion de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape. Autre exemple de réponse, j'augmenterai les salaires de mon équipe. L'argent, ça ne règle pas tout, mais les intervenantes ne seraient pas obligées de trouver un autre travail pour boucler leur fin de mois, dit Cathy Allen, directrice de la maison Alternative pour elle à Rouyn-Noranda. La ministre de la Condition féminine, Hélène David, a démarré des consultations pour relancer le plan d'action en matière de violence conjugale qui prenait fin en 2017. En compagnie de la ministre déléguée à la protection de la jeunesse et à la santé publique, Lucie Charlebois, Mme David doit aussi annoncer mercredi matin des mesures pour soutenir les victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles. L'affrontement entre les militants bloquistes insatisfaits et Martine Ouellette a pris une nouvelle tournure mardi alors que l'exécutif de Chicoutimi-le-Fjord pose comme condition pour présenter un candidat à la prochaine élection partielle que la chef quitte ses fonctions. Si Mme Ouellette refuse et reste en place, elle devra trouver seule un candidat et ne pourra pas compter sur l'aide des militants locaux pour faire élire cette personne. Si Martine Ouellette ne part pas, je n'enverrai pas quelqu'un se suicider sur la place publique, lance au devoir Élise Gauthier, la présidente de l'association bloquiste de Chicoutimi-le-Fjord. Lundi, Mme Gauthier confiait déjà au devoir qu'elle évaluait à 85 % ses risques de perdre la prochaine élection partielle à cause de la crise en cours. Sa consultation des militants l'a convaincue de demander le départ du chef. Circulation sur le Mont-Royal, il n'y aura pas de consultation en amont. La ville doit en premier lieu mesurer les impacts de sa décision, clame l'opposition. Pressée par Ensemble Montréal, anciennement nommée Équipe de Nicodère, ainsi que par de nombreux citoyens favorables au maintien de la circulation de transit sur la montagne, Projet Montréal a réitéré mardi qu'il y aura bel et bien des consultations publiques, mais que celles-ci se tiendront en marge du projet pilote qui doit débuter ce printemps. Ces consultations publiques vont accompagner l'ensemble du projet pilote, a précisé au devoir l'attaché de presse de la mairesse Valérie Plante, Geneviève Jutras, sans détailler quelle forme prendront ces consultations. Une annonce aura lieu à cet effet d'ici le prochain conseil municipal qui se tiendra le 26 mars, indique la ville. Le nettoyage ethnique des musulmans Rohingya se poursuit au Myanmar, a dénoncé mardi le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU avec une campagne de terreur et de famine organisée destinée à les faire fuir vers le Bangladesh. Le nettoyage ethnique des Rohingya se poursuit, affirme dans un communiqué Andrew Gilmore, sous-secrétaire général aux droits de l'homme de l'ONU, haussant le ton plus de 6 mois après le début de la crise. Une campagne de l'armée myanmaraise, qualifiée d'épuration ethnique par les Nations unies, a poussé à l'exode près de 700 000 musulmans Rohingya depuis août 2017. Le chef adjoint de l'armée myanmaraise a reçu lundi à Naypyidaw, la capitale administrative, le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme. Le général a répété que le gouvernement myanmarais est prêt à accueillir les réfugiés, mais reconnaît qu'aucun n'est encore rentré, que ce soit en groupe ou individuellement, a affirmé l'armée mardi, publiant sur Facebook des photos de la rencontre. Des bras pour la Vénus de Milo amputée. L'ONG Handicap International équipait mardi à Paris plusieurs statues de la capitale française de prothèses 3D pour interpeller le grand public sur les centaines de milliers de personnes ayant besoin d'appareils orthopédiques dans le monde. L'ONG International a équipé mardi matin dans une station de métro parisienne cette reproduction de la statue exposée au musée du Louvre. Intitulée « Mon clic Body Can't Wait », Cette opération de sensibilisation au corps brisé a été lancée en 2015. Dans la première phase de la campagne lancée par l'ONG qui s'est étalée sur 9 mois, 19 personnes ont été appareillées de prothèses imprimées en 3D au Togo, en Syrie et à Madagascar. Merci d'écouter l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce mercredi encore qui a des allures un peu de printemps, printemps froid parce que l'hiver s'en vient. L'hiver est de retour, devrais-je dire, parce que le printemps, lui, sera là officiellement le 21.
Canta tu canción, canta en voz alta, canta fuerte, canta de cosas buenas, no malas, canta alegre, no triste.
C'était Pink Martini avec Emilio Delgado qui reprenait cette pièce de 1971, ce succès tiré de la série pour enfants Sesame Street. C'était la pièce Sing.
En une du Journal de Montréal de ce 7 mars, des études en cannabis à l'Université Anja Gaitman, qui est à la une du journal, on la voit bien en photo, doyenne de la Faculté des sciences de l'agriculture à McGill, souhaite que les serres de l'institution accueillent bientôt des plantes potes pour faire de la recherche. Après le bloc opératoire de Charles Lemoine, l'invasion d'insectes est encore pire à Sacré-Cœur. Et la chronique de Rémi Nadeau intitulée « Mon séjour d'horreur à l'urgence ». D'abord, une professeure se retrouve à quelques mètres d'un ours polaire. Même les Inuits n'avaient jamais vu de telles bêtes aussi près de leur village. Le cœur d'une enseignante de Rivière-du-Loup travaillant au Nunavik n'a fait qu'un tour lorsqu'elle est tombée face à face avec un ours polaire qui se trouvait à moins de 20 mètres d'elle. Ce serait la première fois qu'un ours polaire s'approche aussi près du village de Pouvirnitouk dans le nord du Québec, selon ce que les Inuits ont dit à Julie Côté, qui enseigne depuis décembre. Heureusement, elle n'a pas crié et n'a pas couru immédiatement. Des réactions déconseillées. Elle a attendu une minute et l'a regardé redescendre la butte et s'éloigner. Dès qu'elle l'a perdu de vue, elle s'est mise à courir en direction du village pour alerter les policiers. Les policiers ne l'ont pas tout de suite cru, car jamais un ours polaire ne s'était approché si près des résidences. Les chasseurs Inuits plus âgés ont estimé que l'ours avait environ 2 ans. La veille, une tempête de neige importante s'était abattue sur la région et certains pensent qu'il aurait pu se perdre. La fourrure de la bête a été conservée comme trophée et la viande partagée entre les gens du village. Julie Côté a préféré ne pas en manger. De l'ours polaire, on passe aux insectes. Des insectes par dizaines, des mouches, des coccinelles et des guêpes ont été vus à 150 reprises au bloc opératoire de Sacré-Cœur. La situation est encore plus grave que celle révélée il y a 2 semaines par notre bureau d'enquête à l'hôpital Charles Lemoine à Longueuil, où une coccinelle a été filmée par mis des bistouris. L'hôpital Sacré-Cœur dit prendre la situation au sérieux et avoir mis des mesures correctives en place. Chaque présence d'insectes est notée dans un registre d'incidents. Curieusement, lorsque notre bureau d'enquête a demandé combien d'insectes y avaient été répertoriés, l'hôpital a refusé de répondre. L'hôpital assure toutefois qu'il n'y a eu aucune complication post-opératoire liée à la présence de mouches ou de coccinelles. Pour la vice-présidente de l'Association des microbiologistes infectiologues du Québec, la présence d'insectes au bloc ne devrait pas être tolérée. Un insecte, c'est un insecte de trop. Ça pose un risque, a indiqué la docteure Linda Lalancette. Un projet de construction d'un nouveau bloc opératoire à l'hôpital du Sacré-Cœur est présentement en attente des approbations du gouvernement. Un technicien pour Revenu Québec n'a pas payé ses taxes. L'homme devra rembourser près de 84 000 $ pour avoir floué le gouvernement. Un entrepreneur qui installait des machines approuvées par Revenu Québec dans des restaurants pour s'assurer qu'il respecte les lois fiscales ne payait pas ses taxes au gouvernement. Marc Lépine a été condamné à verser une amende de 83 756 $ au fisc après avoir plaidé coupable aux infractions qui lui étaient reprochées le 22 février dernier au palais de justice de Gatineau. Ironiquement, l'entreprise de l'homme, Système SMC, était autorisée par Revenu Québec pour installer des caisses enregistreuses et des modules d'enregistrement des ventes. L'homme a été en mesure de flouer le fisc sur une période de 6 ans, soit de 2010 à 2016. L'homme a plaidé coupable aux accusations et il a maintenant un délai de 18 mois pour payer l'amende. La porte-parole de Revenu Québec explique également que le fisc a retiré l'autorisation à l'entreprise Système SMC d'installer des modules d'enregistrement des ventes. McGill veut offrir un diplôme universitaire en cannabis, apprendre comment irriguer le plant de cannabis ou même quel type de lumière il faut lui fournir. La prestigieuse Université McGill veut former la première vague de maîtres cultivateurs de cannabis québécois en lançant un programme de certificat spécialisé. L'industrie du cannabis légal aura besoin de travailleurs spécialisés pour travailler dans les centres de production et en ce moment, il y a très peu de formation pour eux. On veut former la prochaine vague de maîtres cultivateurs, les gens qui seront responsables des serres, explique la docteure Anja Gateman, doyenne de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement. D'autres collèges offrent déjà des programmes pour les futurs ouvriers du domaine, mais ils forment de la main-d'œuvre moins spécialisée, ajoute Mme Gateman. À la longue, l'université espère même greffer une spécialisation en culture de cannabis à même son baccalauréat en sciences végétales, indique la doyenne. Du même coup, l'université s'active pour mettre en place un important réseau de recherche pan-canadien pour démystifier cette plante dont l'étude a toujours été difficile à cause de son illégalité. Bière fabriquée avec de l'eau de mer. Une microbrasserie de Gaspésie sera l'une des premières au monde à lancer une bière salée à base d'eau de mer. Après la Mor Braz, brassée en Bretagne avec de l'eau de l'Atlantique, voici la Gauze sur mer fabriquée à partir de l'eau salée de la baie des Chaleurs. Ça faisait 7 ou 8 ans que j'y pensais, puis un jour on s'est dit « let's go, on le fait ». Et on est très satisfait du résultat, dit Louis-Franck Valade, copropriétaire de la microbrasserie Le Naufrageur de Carleton-sur-Mer. La Gauze-sur-Mer, nommée en l'honneur du village des brasseurs Carleton-sur-Mer, est un peu surette, une caractéristique typique des bières de style Gauze. La Gauze-sur-Mer sera lancée le 5 avril dans les boutiques spécialisées en bière à travers le Québec. Les chauffeurs de taxi ont manifesté hier en fin de matinée dans le centre d'Athènes réclamant l'adoption immédiate d'une loi pour répondre à l'illégalité et la fraude de Uber et protéger le secteur. Parallèlement, aucun train ne circulait en Grèce hier. Les cheminots protestant contre le manque de personnel et le bradage de Rosco, société de maintenance de matériel ferroviaire en voie de privatisation. Un village de la Mauricie compte à sa tête celui qui est sans doute le plus vieil élu toujours en poste au Québec. À l'âge de 85 ans et 8 mois, Lucien Mongrain a entrepris un 12e mandat à titre de maire de Trois-Rives, qui est situé à une centaine de kilomètres au nord de Trois-Rivières. Il a toujours été élu et réélu par acclamation dans le village de 475 âmes, à l'exception de 2 élections, dont celle de novembre dernier. Mais il est tout de même parvenu à battre par une très forte majorité ses 2 adversaires. Le vénérable élu affirme passer 2 jours par semaine à l'hôtel de ville, sans compter la gestion des appels reçus chez lui, les réunions de la MRC et celles de la Régie des incendies locales. Les statistiques montrent qu'au Québec, les élus municipaux vieillissent. En 2005, 8% d'entre eux étaient âgés de 65 ans ou plus. Cette proportion avait grimpé à 13% en 2009, à 17% en 2013 et à 20% à l'élection de novembre. All I know is that I wanna
D'entendre Milk and Bone avec la pièce Nevermore.
Alors, allons-y avec la chronique de Luc Larochelle dans la Tribune intitulée « L'ivresse de l'adolescence ». À 14 ans, l'âge qu'avait Athéna Gervais, un abus d'alcool m'a sérieusement placé en danger. J'ai perdu la carte avant d'avoir effectué un seul pas de galanterie durant une danse étudiante. Sous-mort, mais assez entêté pour partir sans prévenir. Lorsque mes camarades ont réalisé que j'avais foutu le camp avec le manteau d'un autre, je marchais en vomissant et en trébuchant. L'hypothermie aurait pu me figer dans un banc de neige. À peine quelques centaines de mètres séparent l'aréna de Coaticook à l'école du Sacré-Cœur. Une distance bien trop courte pour ingurgiter un 10 onces de Bacardie pure arrosé en plus de quelques bières. Pas n'importe laquelle, la Brador, celle qui avait la plus forte concentration d'alcool. Nous avons pris un coup en visant le circuit. On tourne les coins ronds quand j'entends ces jours-ci que la jeunesse québécoise serait moins portée à consommer des produits alcoolisés avec une interdiction de vente dans les dépanneurs et supermarchés pour s'en tenir seulement aux succursales contrôlées par l'État. Ça n'aurait d'aucune façon contrecarré nos plans d'adolescents. Avec mon visage de servant de messe, je n'avais pas la moindre chance à 14 ans de tromper le commis d'un dépanneur ou un employé de la SAQ pour acheter de l'alcool. Malgré cela, le mot s'était passé et le chemin de l'illégalité était facile à suivre pour se procurer les ingrédients de la recette pompette qui chasse la gêne avant les rendez-vous galants entre adolescents. Ma mère était restée stupéfaite et mon père complètement décontenancé de me voir aussi défoncé, alors tricoter une histoire qui ne tenait pas plus debout que moi, et cela à peine une heure après leur avoir promis d'agir de manière responsable. Pour rendre le manteau à son propriétaire, mon père était retourné ce soir-là à l'école. Vous imaginez la frousse de mes camarades en le voyant retentir et s'avancer vers eux. « N'ayez crainte, les gars. Je n'ai pas de reproche à vous adresser. Je veux juste vous inciter à agir en protecteurs les uns envers les autres. N'abandonnez jamais l'un des vôtres dans un pareil état. Essayez de le raisonner et n'hésitez pas à aller vers des adultes pour qu'on puisse vous aider, leur avait-il livré comme message. Nous en avons reparlé durant les jours qui ont suivi. D'autres parents ont su et le mot s'est passé. Solidaires de la vérité plutôt que complices des cachettes ou du mensonge, avons-nous tous convenu? Il serait exagéré de prétendre que nos esprits frivoles se sont dès lors mis au garde-à-vous et sont devenus soir après soir des sentinelles d'une fiabilité irréprochable. Mais nous avons gardé en mémoire que les sermons ne nous attendraient pas à la maison, même dans une situation de délinquance appelant à un dépannage parental. Mes filles ont grandi avec cette même convention. Les amis d'Athéna qui avaient consommé avec elle durant la période du midi n'anticipaient pas des conséquences aussi tragiques. Lorsque la cloche a sonné pour la reprise des classes, il est tout à fait normal qu'ils aient réagi en appréhendant des conséquences à ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire le code de conduite du milieu de l'enseignement. Un élève se présenterait en état d'ébriété dans ma classe, qu'il serait de ma responsabilité d'en informer la direction qui, elle, devrait le signaler aux parents. C'est non seulement un devoir, mais c'est une obligation légale, remet en contexte Kevin Laroche, enseignant à l'école de la Montée, l'école secondaire de la Montée. Ce nom vous dit quelque chose? Le professeur Laroche est effectivement le jeune père devenu paraplégique en 2011, après être tombé de la rampe d'un pont du centre-ville de Sherbrooke, sur laquelle il marchait en rentrant à la maison à pied à la fin d'une soirée arrosée. Après avoir bénéficié du soutien de proches et d'amis, M. Laroche avait reçu un appui financier de près de 150 000 $ à l'émission Le Banquier pour adapter sa maison aux besoins d'une personne handicapée. Une solidarité plus édifiante que les remontrances de directeurs de conscience. Kevin Laroche avait célébré avec des copains lors de la soirée qui a mal viré. Mais il était lui aussi seul sur le chemin du retour au moment où il s'est laissé gagner par l'audace. Il faut poursuivre et même intensifier la sensibilisation en milieu scolaire comme dans les milieux familiaux, parler ouvertement aux jeunes des risques inhérents à certaines pratiques ou à certains comportements, ajoute-t-il. Parfaitement d'accord. La conscientisation à grande échelle rehaussera davantage notre niveau de vigilance collective que des blâmes aux fabricants ou l'érection d'autres barrières réglementaires pour encadrer la commercialisation de produits qui, de toute façon, demeureront la source de tentation à l'âge de l'expérimentation. Dans le quotidien, Annie-Claude Brisson. Grâce à un don de 5 000 $, Andréanne Bouchard a atteint l'objectif de sa campagne de socio-financement en seulement 4 jours. Celle qui vit avec un lourd handicap physique sera en mesure d'adapter la résidence familiale d'Héberville au lac Saint-Jean. Les 10 000 $ espérés auront été amassés grâce à plusieurs dons, dont un 5 000 $ provenant du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida. Samedi, après avoir lu l'histoire de la jeune femme de 21 ans dans Le Progrès, le président du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida, Alain Gagnon, a contacté le reste de son équipe. Il était impensable pour lui de ne pas intervenir. Quand j'ai lu l'article, j'ai été frappée par le dynamisme d'Andréanne et par sa volonté de vivre malgré un système mal adapté à ses besoins, témoigne celui qui s'est rendu à Alma avec plusieurs collègues pour remettre le chèque. Alain Gagnon a confié qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle. « Madame Bouchard est un exemple pour nous. Nous avons gratté les fonds de tiroir et d'un commun accord, nous avons choisi de remettre 5 000 $, a-t-il ajouté, ému de rencontrer la jeune femme. Le syndicat assure ne pas être là pour une publicité, mais plutôt pour encourager le dynamisme d'Andréanne et de lancer en quelque sorte un mouvement d'entraide. Le but est de l'aider à obtenir son autonomie afin de vivre comme les jeunes filles de son âge, ajoute Alain Gagnon. Parmi les autres dons majeurs, l'étudiante au niveau collégial pourra bénéficier de meubles adaptés sans frais grâce à l'entreprise Almatoise Ébénisterie Distinction. Andréanne Bouchard tient à remercier tous les donateurs. Dans Le Soleil, une exclusivité, le site de la première colonie française établie à Cap-Rouge en 1541-1543 et les vestiges déterrés comme ceux qui s'y trouvent encore bénéficient désormais de la protection du ministère de la Culture qui les a classés en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, c'est un article de Jean-François Néron. En officialisant le classement d'un site archéologique et d'une collection d'objets immensément riches en histoire, le gouvernement du Québec désire ainsi assurer la pérennité de ce joyau de notre patrimoine culturel et sa transmission aux générations futures, s'est réjouie la ministre Marie Montpetit. Ceux-ci constituent des témoins exceptionnels d'un événement majeur de l'histoire du Québec, ajoute-t-elle. Cette protection ne certifie pas seulement la valeur exceptionnelle du site situé sur le promontoire de Cap-Rouge aux abords du fleuve. Elle empêche aussi toute utilisation des lieux à d'autres fins que l'archéologie sans l'autorisation du ministère. Le terrain désigné appartient à la Commission de la Capitale-Nationale. Le site a été découvert en 2005, un peu par hasard, pendant des fouilles exploratoires avant le projet de la promenade Samuel de Champlain. On y a mis au jour des vestiges de la colonie installée par Jacques Cartier et Jean-François de la Roque de Roberval à partir de 1541, 67 ans avant la fondation de Québec par Champlain. Il est considéré comme la première tentative de colonie française en Amérique. Une première phase de fouilles de 2006 à 2010 au coût de 8 millions de dollars a permis d'explorer 25 % de la superficie du site. Un rapport d'archéologues conseillait de poursuivre les fouilles sur une superficie supplémentaire de 25 %. L'argent n'a jamais suivi. Le nouveau statut accordé au site et aux vestiges ne garantit pas le versement de nouvelles sommes pour terminer les fouilles. Devant la crainte de certains que le site ne se dégrade, le ministère a envoyé il y a quelques mois des experts pour s'assurer de l'intégrité des lieux protégés par des bâches. Il semble n'y avoir aucun risque d'altération. Plusieurs des 6000 artefacts retrouvés sur le site, tessons de verre, manches d'ustensiles, boutons plaqués d'argent, fragments d'une cotte de maille, pions de jeux de dames et de tric-trac, font partie de l'exposition « La colonie retrouvée » présentée au Musée de l'Amérique francophone. Et dans le Nouvelliste, Audrey Tremblay, c'est le plus beau moment depuis que je suis ambulancier. Deux paramédics ont mis un enfant au monde dans l'ambulance sur la route qui sépare Latuque de Ewemotaki. Vendredi dernier, Mathieu Nolin et Danick Filion ont vécu un grand moment d'émotion qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Les deux hommes avaient encore des étoiles dans les yeux en début de semaine. Je peux mettre ça sur ma checklist d'ambulancier. C'est vraiment trippant, je capotais.
Somebody new.
La chanson est de Willie Nelson, interprétée à l'origine par Patsy Cline en 1961. C'est un extrait de l'album Hommage à Patsy Cline, paru en 2015, que Brigitte Boisjoli a enregistré.
Actualité culturelle, danse, les excuses des grands ballets canadiens. Dans la foulée de la controverse, un des chorégraphes de la soirée Femmes quitte la programmation. C'est un texte d'Annabelle Caillou dans Le Devoir d'aujourd'hui. Devant les multiples critiques à l'encontre de sa 62e programmation, le directeur artistique des grands ballets canadiens, GBC, a présenté ses excuses mardi et remplacé le titre du spectacle « Femme » par « Parlami d'amore », un programme triple qui a d'ailleurs perdu l'un de ses chorégraphes mardi. Les chorégraphes commençaient à se sentir menacés et se questionnaient sur la thématique après la pétition. « C'était ma responsabilité de prendre le poids des critiques sur mes épaules et d'opérer ce changement pour permettre un dialogue et ouvrir sur le thème de l'amour et de la paix », a expliqué en entrevue avec Le Devoir le directeur artistique Ivan Cavallari. La programmation 2018-2019 des GBC, Grand Ballet canadien, et particulièrement le spectacle Femmes, a soulevé une vague de contestation dans le milieu de la danse et au sein même de la compagnie dans la dernière semaine. Présentée comme une ode à la femme, la saison ne comptera qu'une seule d'entre elles parmi ses chorégraphes, Cathy Martson, sur les 6 spectacles et 8 chorégraphes annoncés. Un choix artistique jugé déconnecté de la discussion sociale, rétrograde, macho ou même opportuniste par plusieurs artistes du milieu. Une pétition a même été lancée par la chorégraphe torontoise Kathleen Rhea sur Internet pour demander l'ajout d'une chorégraphe féminine au programme Femmes et appeler les GBC à utiliser un langage marketing plus respectueux envers les femmes. Plus de 2700 personnes l'avaient signé mardi au moment d'écrire ces lignes. « Je n'ai voulu offenser personne. Nous avons entendu, nous prenons acte et nous réaffirmons notre ouverture au dialogue en continuant de faire place aux femmes », a dit Ivan Cavallari, directeur artistique des Grands Ballets canadiens. Il a rappelé qu'il avait invité 3 femmes chorégraphes et une chef d'orchestre au cours des 6 prochains mois à faire entendre leur voix au Grand Ballet. Un chorégraphe s'en va. Devant la déferlante de critiques qui visait particulièrement la soirée Femmes, le chorégraphe français Mehdi Valersky a préféré annuler sa participation. Le récent communiqué de presse et ses critiques subséquentes sur les médias sociaux m'ont fait reconsidérer ma participation à ce programme particulier. J'ai pris la décision de sortir de ce programme, a annoncé mardi Mehdi Valersky dans un message sur son compte Facebook. Il devait prendre part à la création de la soirée Femmes, désormais Parlami d'amore, aux côtés de Douglas Lee et Warwick Schmidt en mai 2019. Même si je suis reconnaissant pour l'occasion et la confiance que m'ont offerte les grands ballets canadiens, je ne peux pas rester silencieux, a ajouté Mehdi Valersky, rappelant avoir été soutenu, formé et accompagnée par de nombreuses chorégraphes féminines tout au long de sa carrière des femmes qui ont constitué l'un des piliers les plus forts de son travail. Il est temps de remettre en question et d'inverser le déséquilibre généralisé entre les sexes, poursuit-il. Ivan Cavallari a indiqué en entrevue mardi avoir déjà approché un autre chorégraphe pour remplacer Mehdi Valersky et se dit en attente d'une réponse. « Je garde l'idée de base qui est d'avoir 3 hommes pour parler d'amour, et on aura 3 femmes dans la saison prochaine », indique-t-il. La critique de la pièce de théâtre « Les robots font-ils l'amour? » Adaptation et mise en scène Angela Conrad, présentée à l'usine C jusqu'au 10 mars. C'est Mario Cloutier qui accorde 3,5 étoiles sur 5 à cette pièce. Sa chronique intitulée « Science, friction ». Des sujets à faire dresser les cheveux sur la tête, des conférenciers hystériques de l'humour burlesque. Bienvenue au colloque déjanté d'Angela Conrad. L'expression est pertinente. Les robots font-ils l'amour? Relève bel et bien du théâtre colloque. La forme et l'esprit de ces rencontres universitaires sont respectés. Une grande partie du contenu est aussi très sérieuse et c'est ça le plus effrayant. Inspiré par l'essai de Laurent Alexandre et Jean-Michel Besnier, « Les robots font-ils l'amour? », Angela Conrad fait état de découvertes et d'avancées scientifiques, immortalité, être hybridé, grossesse en utérus artificiel entre autres, qui figurent parmi les recherches actuelles. Des expériences qui se déroulent à l'abri des curieux tout en étant financées par des firmes technologiques milliardaires. Mis à part la chanson « Space Oddity » de David Bowie, le début du théâtre colloque se déroule exactement comme une conférence universitaire. Ouverture par un président d'assemblée, suivie d'une biographie des conférenciers et de leur présentation comme telle, avec PowerPoint et vidéo en appui. Cette entrée en matière un peu froide et statique nous informe cependant sur des sujets qui vont du fascinant à l'horrifiant. Très vite, l'humour, on est en présence des docteurs Vagin Strupp et Lacue tout de même, et les accidents de parcours nous amènent vers un capharnaüm digne des comédies burlesques. Le colloque donne lieu à un affrontement, voire à des empoignades, entre les transhumanistes qui souhaitent améliorer l'humain au point de le fusionner avec des robots et les bioconservateurs qui veulent préserver à tout prix l'aspect naturel et aléatoire de la vie sur Terre. Tout en nous conscientisant sur des sujets dont nous ignorons presque tout, Angela Conrad se paie franchement la tête des dogmes de la recherche scientifique et du snobisme universitaire. Puis, au bout de ce cul-de-sac intellectuel, la metteur en scène arrive à nous surprendre encore par un recours salutaire à la poésie. Face à l'éthique élastique des transhumains, on serait tenté de prendre parti pour le chimpanzé du futur et émule de Jane Goodall, Dominique Quesnel alias Ricky, sobre et sérieuse comme jamais, qui ne cesse de répéter que l'avenir, notre avenir, est menacé par le fascisme des technosciences. On retrouve à ses côtés des habitués de la maison Conrad, l'émouvant Philippe Cousineau en Mickey, père d'une enfant trisomique, la frigorifiante Kiki ou Lise Roy, qui fait drôlement penser à l'artiste transmédia française Orlan, la sensuelle Nikki, Marie-Laurence Moreau, et la femme robot Vicky, l'excellente Stéphanie Cardi. Un beau groupe qui a l'habitude de se côtoyer et qui nous fait passer du rire fou à la réflexion profonde dans un spectacle au bout du compte original, éclaté et passionnant. Comme le dit un personnage, on ne peut pas être pour ou contre le progrès, qui se passe plutôt bien de chez nous, merci. Mais une fois alerté, il est de notre devoir de citoyen de rester vigilant, de rester humain. Claveciniste virtuose et directeur artistique de Clavecin en concert, Luc Beauséjour présente l'opéra Vénus et Adonis du compositeur anglais John Blow. Cet opéra assez bref, à peine plus d'une heure, inspira la composition de l'opéra Didon et Énée du grand Henry Purcell. L'œuvre se fonde sur le fameux mythe bien qu'averti des dangers de la chasse aux sangliers. Adonis se blesse et vient mourir auprès de Vénus, déesse de l'amour qui en pince pour lui. La soprano Nathalie Paulin, Vénus, le baryton Marc Boucher, Adonis, et la soprano Anna-Sophie Néer, Cupide, comprendront les rôles principaux de cet opéra imaginé à l'époque baroque. Luc Beauséjour dirigera l'ensemble instrumental de 14 musiciens, ainsi que le chœur. Marie-Nathalie Lacourcière a conçu la mise en scène de cette production et en a chorégraphié les danses exécutées par Stéphanie Brochard. Les dessins de Caroline Guilbeault, commandés en 2013 par le Toronto Masque Theatre, seront projetés en guise de décor à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts de Montréal le 10 mars, 20h. Et l'Orchestre symphonique de Montréal poursuit sa tradition annuelle et confie les familles à participer au bal des enfants, dont l'objet est de récolter des fonds pour soutenir la mission éducative et d'accessibilité de l'OSM. Ce spectacle bénéfice est destiné aux enfants de 5 ans et plus, accompagnés bien sûr de leurs parents. Dirigé par Kent Nagano, il sera précédé d'animations et d'un goûter servi dans les foyers de la Maison symphonique. Cette année, on a choisi pour thème le Petit Chaperon Rouge. Le baryton Dominique Côté incarnera le loup. La comédienne Alexandra Sicard sera le Petit Chaperon Rouge. Louise Turcot fera la grand-mère, Martine Franck la mère et la chouette. Le spectacle est écrit par Élisabeth Sirois et mis en scène par Charles Dauphinet. Interprété par l'OSM, la musique de ce bal des enfants puisera chez Maurice Ravel, Henri Dutilleux, Francis Poulenc, Gustave Mahler, Sergei Prokofiev, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Georges Bizet, Charles Gounod, Béla Bartok, Olivier Messiaen, Nikolai Rimsky-Korsakov et Igor Stravinsky. C'est à la Maison symphonique de Montréal le 17 mars, 13h30.
T'es loin depuis trop longtemps, mais toujours dans ma tête. Même quand je me fiche dans le présent, ton souvenir masque la fête. C'est comme si c'était hier, mais je m'ennuie au complet. Comme si des années-lumière séparaient nos reflets. Si proche, je suis si loin. Si proche, je suis si loin. Si proche, je suis si loin de moi. Je suis là, je peux pas y faire. T'es à des années-lumière de moi. Faut que j'arrête de penser. Soudain, ça vient dans deux semaines. Puis mon cœur en quarantaine seulement. Ce qui va y arriver. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Le cœur tout à l'envers. Mais pourtant décidé. Plus de retour en arrière. T'avouer. Mais je trouve le temps long à compter les heures qui séparent nos prénoms, les battements de nos cœurs. Si proche et si loin, si proche et si loin, si proche et si loin. Je peux pas y faire. T'es à des années-lumière de moi. Faut que j'arrête d'y penser. Soudain survient dans deux semaines. Puis mon cœur en quarantaine seulement. Ce qui va y arriver. Je veux pas encore faire mal. Mais tes doutes sont banales. C'est peut-être con, mais c'est tout ce que j'ai. L'espoir que j'en ai encore. Et de plus en plus fort. Mais j'ai peur de voir t'éloigner. L'espoir que j'en ai
Ça a été produite par Daran. C'est une nouveauté. Alicia Deschênes, Année Lumière.
Sport féminin, féminin entre guillemets. À bas les préjugés. Le patinage artistique, la gymnastique, le yoga, le cheerleading, le plongeon et la nage synchronisée sont souvent perçus comme des sports féminins. Pourtant, d'innombrables garçons y trouvent leur compte et font éclater les préjugés. C'est un dossier de Samuel Larochelle, collaborateur spécial. La gueule. À Alors, allons-y. C'est quoi un sport de filles, entre guillemets filles? Samuel Larochelle, donc, si la pratique du soccer est extrêmement populaire au Québec, tant chez les garçons que chez les filles, le sport est étiqueté comme étant relativement masculin, encore une fois, entre guillemets, en Europe. Comme quoi la nature féminine d'une discipline est sujette à interprétation selon l'endroit où l'on se trouve. Il convient aussi de rappeler que tous les sports ont longtemps été une chasse gardée pour les hommes. En 1896, lorsque Pierre de Coubertin a relancé le mouvement olympique, aucune épreuve féminine n'était au programme. Le seul rôle réservé aux femmes consistait à remettre des couronnes en feuilles de vigne aux gagnants. Ce genre de décision a incontestablement participé aux constructions sociales, associant certains sports à un genre plus qu'à l'autre, selon Suzanne Laberge, professeure et responsable du laboratoire de sociologie du sport et de promotion de l'activité physique à l'Université de Montréal. Si un enfant n'était pas immergé dans une société où le sport est genré, il n'aurait probablement pas la conception que tel sport est fait pour les gars et tel autre pour les filles, explique-t-elle. Durant notre expérience de vie, si un genre est absent d'une pratique sportive, on fait inévitablement des liens dans notre tête. À l'inverse, un sport comme la natation est assez unisexe parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui le pratiquent, dit Mme Laberge. Présidente d'Égal Action, Guylaine Demers se rappelle que le sport est l'un des nombreux domaines où les notions de masculin et de féminin viennent avec une liste de comportements attendus. Apprendre à être un homme ou une femme, c'est ancré très profondément dans nos façons d'être, dit-elle. Dans la pratique sportive, on associe les « vrais gars » à des concepts comme la force, la virilité, l'agressivité et la compétitivité, alors qu'on attend des filles qu'elles soient douces, gracieuses, surtout pas agressives et qu'elles aident les autres. Athlétique et artistique. Ainsi, les sports ayant un volet artistique viennent tous avec une étiquette de féminité. Nage synchronisée, patinage artistique, gymnastique artistique, plongeon, danse, cheerleading. Peut-être que l'adjectif artistique fait peur et amène des préjugés, avance Marie-Hélène Claveau, directrice générale adjointe chez Gymnastique Québec. Quand on dit artistique, c'est rare qu'on pense aux garçons en premier, puisque la grâce et l'élégance sont par tradition plus souvent associées aux femmes. Pourtant, la gymnastique est aussi une discipline de force et de puissance. Certains de mes collègues masculins se rappellent l'étiquette de sport de filles quand ils étaient jeunes et ils étaient gênés d'en parler. Mais d'autres étaient considérés comme les gens cool de l'école, car ils savaient faire des acrobaties, précise-t-elle. C'est propre à l'expérience de chacun. La présence d'une figure masculine forte peut également transformer les perceptions. Par exemple, il y a 20 ans, le plongeon était pratiqué à 85 % par des filles. L'ex-directrice exécutive de Plongeon Québec, Isabelle Cloutier, lance quelques hypothèses pour expliquer le phénomène. Peut-être que les gens voyaient le plongeon ainsi parce que c'est un sport artistique ou parce que les garçons ne veulent pas porter de speedo. Mais par-dessus tout, les modèles de réussite étaient féminins. Sylvie Bernier, Annie Pelletier, Émilie Emmons. Tout a changé en 1998 quand Alexandre Despatie est devenu le plus jeune médaillé de l'histoire des Jeux du Commonwealth. Sa popularité a renversé les statistiques, souligne Mme Cloutier. Dans les cours d'initiation, la parité a fait son apparition. Au niveau compétitif, dans les plus jeunes catégories, il y avait plus de garçons que de filles, du jamais vu. Guylaine Demers met en garde la population contre les effets pervers des perceptions genrées. Les étiquettes excluent les garçons qui auraient le goût de pratiquer ces sports car ils vont s'auto-éliminer d'emblée, tout comme les filles le font encore beaucoup avec le football, le hockey ou le rugby, parce qu'on dit que ce sont des sports de gars et que si elles veulent les pratiquer, c'est parce qu'elles ne sont pas de vraies filles, donc des lesbiennes. Selon une étude qu'a menée Suzanne Laberge, les jeunes garçons sont très durs envers ceux qui désirent pratiquer des sports de filles. Ils se disent qu'il y a assez d'options faites pour les garçons, alors pourquoi faire des sports féminins? Ironiquement, ils trouvent ça correct que les filles pratiquent des sports de gars. Comme si une fille s'élevait en faisant un tel sport et qu'un garçon se diminuait en faisant l'inverse, dit Suzanne Laberge, professeure et responsable du laboratoire de sociologie du sport et de promotion de l'activité physique à l'Université de Montréal. Résultat, Les filles sont 10 fois plus nombreuses que les garçons dans certains sports comme la gymnastique artistique. La Fédération québécoise de gymnastique réfléchit d'ailleurs à des moyens pour changer les choses. On se questionne sur la façon de composer différemment avec les garçons, explique Mme Claveau. Heureusement, on peut compter sur une relève masculine, comme on l'a vu avec René Cournoyer au championnat du monde à Montréal en octobre dernier. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Québécois à ce niveau. On avait besoin de modèles. La présidente d'Égal Action affirme aussi que les athlètes de la communauté LGBTQ participent largement à l'évolution des mentalités dans le sport. Quand un athlète de football américain ou de rugby masculin fait son coming out, les gens comprennent peu à peu qu'ils ne peuvent plus associer un sport de dur à cuire avec l'image cliché, voulant que seuls les « vrais » entre guillemets gars hétéros le pratiquent. Au fond, quand un athlète performe, ça n'a pas rapport qu'il soit gay ou non. Tous les concepts de binarité de genre sont en train d'éclater. Au-delà des idées reçues, la presse a discuté avec 4 athlètes masculins qui pratiquent des sports dits « féminins » pour connaître leur motivation et ce qu'ils pensent des paradigmes du genre dans leur discipline. René Cournoyer, gymnaste. La gymnastique n'est absolument pas un sport de filles. C'est un stéréotype instauré au Québec en raison de la victoire de Nadia Comăneci au JO de Montréal en 1976. Depuis, les gens se disent que c'est un sport majoritairement féminin. Pourtant, ce sont presque 2 sports distincts. Les hommes compétitionnent sur 6 appareils, arçons, anneaux, sauts, barres parallèles, barres fixes et sol, sans musique ni danse, et les femmes sur 4 appareils, sauts, barres asymétriques, poutres, sol, avec musique et danse. Les engins féminins requièrent davantage de souplesse et d'équilibre, alors que les masculins exigent plus de force et de puissance. Ces 2 sports sont magnifiques à regarder, mais ils peuvent difficilement être comparés. Pour ma part, j'aime que la gymnastique soit un sport de sensations fortes qui défie les lois de la gravité et qui pousse le corps humain à faire l'impossible. La sensation de voler est incroyable. Luca Etier, patineur artistique. Le patinage artistique est un sport très varié. Pour y exceller, on doit avoir de la force, de la vitesse, de l'agilité et de l'élégance. À la télévision, on voit seulement le résultat final qui semble si facile. Par contre, on ne voit pas toutes les heures de pratique difficiles. Ceux qui disent que le patin est un sport de filles ne connaissent pas le sport et ne voient que le côté artistique de la discipline. Alexandre Pellant, professeur de yoga, « J'aime le yoga pour la conscience du corps que la pratique apporte, les liens importants avec la respiration dans les pauses ou dans le mouvement, sa philosophie, l'éveil spirituel, les gens qu'on y rencontre. J'entends souvent dire que le yoga est réservé aux femmes, qu'il faut être flexible pour en faire et que je dois aimer le yoga uniquement pour regarder les filles. D'abord, dans les classes où j'enseigne, les garçons représentent de 20 à 60% des élèves en moyenne. Et je ne crois pas que ça dérange le gars d'être entouré d'une majorité de femmes. » Kevin Gayson, athlète de cheerleading, « J'adore que ce soit un sport d'équipe. J'ai longtemps fait partie de l'équipe nationale de plongeon et c'était un sport principalement individuel. Donc, en commençant le cheerleading, j'ai eu l'impression de rencontrer une nouvelle famille. J'aime aussi beaucoup les exigences physiques du sport qui demandent une endurance cardiovasculaire incroyable. En passant sur les 22 membres de mon équipe, nous sommes 12 gars. » Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de sortir la pelle parce que la neige s'en vient. Merci beaucoup Jean-Sébastien Laliberté qui n'a pas l'air très, très heureux de ce que je viens d'annoncer. Mais c'est la réalité, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Non, parce que la neige s'en vient de toute façon. Et je vous invite à rester là. Si vous nous écoutez en direct, j'anime les Par Actualité dans quelques minutes.